Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Les énergies. Quelles sont les énergies produites sur notre territoire? Un pays dessiné de montagnes, de vallées, de rivières et de vents, habité d'une grande diversité d'êtres vivants. Des énergies renouvelables, bien sûr, celles qui nous servent à avancer, à décoller, à rêver, pourrions-nous dire. Aller plus haut, aller plus loin. Oui, mais pourquoi faire? Des énergies encore renouvelées et ainsi de suite. Il est grand temps d'en produire et d'en proposer au plus grand nombre parce que ça chauffe. Certains parlent d'effondrement. Qui sait, peut-être enfin. Et pour ce premier épisode d'une série de 4, nous vous emmenons faire la connaissance de Claire Tincelin et de ses 5 éoliennes. Un jour de printemps, nous nous sommes rencontrés. Installée sur une crête au-dessus du village de La Roche-sur-Grane, 26400 Drôme, France, planète Terre, elles sont 5 élancées dans le ciel. 100 mètres de hauteur en bout de pale, 2,3 mégawatts de puissance chacune. Vous vous rendez compte? Moi pas. Enfin jusqu'à ce jour. Écoutez l'épisode 1, Les éoliennes de Claire, une série dont on pourrait tourner les pages illustrées. Tourner la page.
Bonjour Claire Tincelin.
Bonjour Vincent.
Alors, on est chez vous, là?
Ouais, on est chez vous. Mais vous auriez dû venir hier, parce que là, vous n'allez pas les entendre, les machines. Vous avez un petit vent du nord. Il est pas rabattant. Vous n'entendrez rien d'ici. On est à 800 mètres des machines. Vous seriez venu hier soir, là, par contre. Vous les auriez entendus.
Alors, les machines...
Les 5 belles éoliennes qui sont sur la colline de la Sauve. Et qui sont, magnifiques. Moi, je trouve ça très beau, je trouve ça super intéressant. J'aime bien cette notion de production d'énergie manifeste. Voilà, on voit, entre guillemets, ce que ça coûte de produire de l'énergie, de l'électricité. Là, c'est en termes de paysage, hein. C'est pas en termes de combustible, on n'importe pas le vent de Russie, on va pas faire la guerre pour faire venir du vent en France. Donc voilà, ça me paraît bien. Enfin, c'est beau. J'ai toujours voulu travailler dans le domaine de l'environnement. Et quand j'étais jeune, mon papa, qui était très carré, comme ça, me disait « Tu peux pas travailler dans l'environnement, il faut que tu apprennes un métier ». Donc j'ai appris, je me suis formée un peu en chimie. Et puis, en fait, l'énergie m'est tombée dessus quand j'ai commencé à travailler au CEDER à Nyons, dans le milieu des années 90. Et puis l'éolien m'est encore plus tombé dessus dans la fin des années 90. Et à un moment, on s'est retrouvé à venir habiter dans cette maison-là. On avait identifié le site comme pouvant éventuellement recueillir une petite éolienne d'occasion, mais c'est de la vieille histoire, c'était avant le tarif d'achat de l'électricité. Et puis on a tiré sur le fil, enfin j'ai tiré sur le fil de ce que pouvait être monter un projet de production d'électricité avec de l'éolien.
Ça venait d'où un peu cette inspiration ? C'était un peu précurseur, ça, certainement.
C'était précurseur, mais dès le départ, l'éolien, enfin en tout cas à l'époque, l'éolien c'était l'alternative la plus intéressante en termes de volume d'électricité produite. Le photovoltaïque avait un rendement qui était tout petit. Personne pensait qu'on allait pouvoir en installer des kilomètres carrés comme ce qui est le cas à l'heure actuelle en Europe.
Tournez la page.
Je suis un peu une ligne qui a été tracée par mon père, un peu par ma mère, qui étaient des militants. Et j'ai épousé un homme qui lui-même a une histoire familiale à la fois militante et résistante, oui. Bon, allez, venez, je vous paye un café, on rentre.
Avec plaisir.
Le vent.
Et puis plus on monte, plus on les voit. Oh, qu'elles sont belles, qu'elles sont belles, qu'elles sont belles. En été, le paysage est un peu gâché par les arbres autour de la maison, mais en hiver, c'est bien, on les voit bien.
C'est presque une histoire d'amour.
Mais c'est clair. Évidemment. On a monté une société pour une société de 9 personnes qui étaient intéressées au développement de ce projet-là, qui étaient pour la plupart des gens habitant dans la Drôme. Et qui ont bien voulu me faire confiance quand je leur ai dit « Eh les gars, je m'appelle Claire, je suis une bonne fille. À votre avis, ça vous dirait de monter un projet éolien avec moi ? Je ne sais pas faire, mais on va regarder comment ça se fait. » Donc, on a monté une société, on a réuni de l'argent pour pouvoir financer les études. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il fallait aussi financer des avocats pour réussir à lever les contraintes administratives et juridiques associées à ce genre de projet.
Et ce collectif, il s'appelait comment ?
Ah ben, ce collectif, il s'est vite appelé La Sauve, hein, du nom de la colline, et puis La Sauve SAS, du nom de la structure de la société qu'on a montée. Donc, c'était une société par action simplifiée et... voilà. En fait, l'idée rapidement, ça a été pas seulement de produire pour notre consommation d'énergie, mais produire pour se raccorder au réseau. Et on arrive vite à une réflexion qui est de dire, eh ben, si on fait des travaux pour raccorder une machine, autant en faire pour raccorder 3, 4 ou 5 machines. Et ensuite, la plupart des projets sont contraints par à la fois une réglementation et puis une distance minimum à avoir avec les habitations qui sont à proximité, des contraintes de présence de réseaux existants. Donc voilà, en réfléchissant à développer un projet, on est arrivé sur un projet de 5 machines qui pouvaient être circonscrits sur un territoire cohérent. Relativement rapprochées les unes des autres, le plus possible en proximité de la crête, Mais une de mes préoccupations, moi, à l'époque, c'était d'éviter un effet balcon sur la plaine du Roubion. Et l'idée, c'était de mettre plutôt les machines dans la pente que sur la crête. À l'époque, il n'y avait pas de tarif d'achat de l'électricité. Donc, il n'y avait aucune rationalité économique à installer des éoliennes ou du photovoltaïque sur le territoire parce que EDF n'achetait pas, enfin, l'État n'achetait pas l'électricité produite par les renouvelables à un prix suffisant pour que ce soit cohérent d'en installer. Donc on avait essayé de trouver le moyen de faire venir des éoliennes d'occasion du nord de l'Europe. Mais des éoliennes d'occasion, quand on n'est pas soi-même un opérateur énergétique, c'est compliqué de se dire qu'on va faire venir du matériel, même de plusieurs centaines de kilowatts. C'est compliqué de se dire qu'on va avoir la responsabilité d'une telle production. L'idée, ça a été de tirer sur le fil. Qu'est-ce que ça veut dire monter un projet éolien avec des machines neuves? Qu'est-ce que ça impose en termes d'études préalables? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a du vent? Quelles sont les contraintes environnementales au niveau de la vie faune, au niveau de la flore? Voilà, et à l'époque, on a fait avec ce que l'État imposait en termes d'études d'impact.
Des études d'impact.
On est sur une ligne de crête qui est une zone de passage d'oiseaux migrateurs. C'est plutôt des passereaux qui migrent à cet endroit-là. Pour preuve, il y avait beaucoup de chasseurs à une époque où les périodes de chasse étaient un peu plus longues. Il y avait beaucoup de chasseurs à l'affût qui venaient tirer des oiseaux de passage. Maintenant, c'est une pratique qui est de moins en moins développée, mais même sans avoir fait d'études avifaune, on pouvait savoir qu'il y avait des oiseaux qui passaient à cet endroit-là. Voilà, étude avifaune, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Quelle est la configuration qui est la plus intéressante? Eh bien, la configuration qu'on a proposée, qui est quelque chose en bateau avec des éoliennes dans la pente, on pouvait se dire que ça pouvait créer un effarouchement suffisant pour limiter le passage des oiseaux entre les machines. Mais ça, c'était des supputations de l'époque. L'opérateur maintenant qui exploite les machines est tenu de faire des suivis environnementaux parce que ce sont des installations classées pour la protection de l'environnement. Et chaque opérateur est tenu de s'assurer de l'innocuité de son installation pour l'environnement.
Alors là, Claire Tincelin, on est sur la terrasse de votre maison et effectivement, on est aux premières loges là pour voir ces éoliennes élancées avec leurs grands bras. Quel bruit elles font? Est-ce que vous pourriez me faire le bruit qu'elles font là quand le vent vient du sud?
Quand le vent vient du sud, je ne saurais pas le reproduire, mais c'est presque comme si vous aviez un avion de ligne au-dessus de la tête. Vous savez, quand on les entend d'un peu haut là, quand on sait que c'est un avion qui passe. Voilà, donc de temps en temps, on a ça par vent du sud. Mais l'opérateur qui... Voilà, comme ce qu'on vient d'entendre, c'est pas les éoliennes, c'est pas un avion, c'est le TGV. Voilà. Mais même ça, vous l'aurez pas pris dans votre... je pense que vous l'aurez pas...
Enregistré,
c'est trop ténu. C'est super compliqué d'enregistrer les bruits d'émergence. Mais quand même, de temps en temps, effectivement, par vent du sud. Surtout quand on a les petits cris des oiseaux un peu aigus comme ça, on a le bruit des machines qui est plutôt dans les graves. Et oui, il y a des fois où on les entend, mais c'est pas 100% du temps.
Elle réalise toutes les études d'impact nécessaires pour ce qui est de la faune et de la flore, et pour ce qui est des amoureux amoureuses des paysages naturels, les habitants, le voisinage.
Eh ben, ça dépend des gens. Il y a des gens pour lesquels ça se passe bien, et puis il y a des gens pour lesquels ça se passe mal. Il y a des gens qui trouvent que les machines sont absolument odieuses dans le paysage, qui les trouvent maintenant sur leur parcours de randonnée et qui trouvent ça terrible. Et puis, il y a des gens qui s'assoient devant et qui les regardent presque en contemplation. Il y a des marquages symboliques qui sont très différents suivant les personnes. Pour moi, ces machines-là, c'est à la fois intelligent, c'est indépendant, c'est l'avenir, c'est la résilience, c'est énormément de choses. Il y a des gens, j'ai entendu des gens qui me disaient « Oh mon Dieu, c'est la grande faucheuse !» Parmi les gens qui étaient plutôt pour, y avait la fille de nos voisins. Un jour, on se croise en voiture, on baisse nos vitres. Je chouine un peu en disant « ça n'avance pas, le projet est toujours au tribunal administratif, c'est long, c'est compliqué ». Elle me répond « ah ben tu vois, Claire, si mon grand-père était encore maire de la commune, tes éoliennes, elles seraient montées et on en serait tous fiers. Tes éoliennes, elles seraient montées et nous en serions tous fiers. » Le jour où elle m'a dit ça, ça a ancré chez moi un sentiment de légitimité que j'avais pas avant. Et je ne l'en remercierai jamais assez. Mais c'est bien aussi de savoir que sur un projet comme celui-là, les vieux paysans de la commune me tapaient dans le dos en me disant, alors que il y a 20 ans, j'étais une jeune néo-rurale, d'une certaine façon. Hein, et les vieux paysans de la commune me tapaient sur le dos en disant, alors ça avance ton truc ou tu nous montres un peu comment d'une certaine façon les anciens n'avaient pas peur du changement, et les gens qui ont le plus peur du changement sur le territoire de La Roche-sur-Grane, c'est un peu certains néo-ruraux quand même. L'impact paysager est relativement, entre guillemets, faible parce que on n'est pas dans une zone qui est neutre, qui est vierge de toute intervention humaine. On est dans une zone où il y a déjà un viaduc de TGV, on est dans une zone d'exploitation agricole avec des hangars et des poulaillers, il y a des routes, il y a des poteaux électriques, des pylônes.
On ne pourra pas faire l'économie d'un certain impact sur notre environnement, quelle que soit notre manière de produire de l'énergie.
Oui, on peut aussi le dire autrement. On peut le dire... une installation comme ces cinq machines sur la colline de la Sauve, si elle avait un impact qui ne pouvait pas être corrigé par des arrêts de machines ou par un bridage ou par de l'effarouchement, Eh bien, la DREAL serait tout à fait en mesure d'en obliger l'arrêt. Mon chat, quand il bouffe un oiseau, à part me débarrasser de mon chat, je ne peux pas l'obliger à arrêter de bouffer des oiseaux. Quand je tape une bestiole avec ma voiture, j'arrête pas de conduire. Je maîtrise ensuite ma façon de conduire. J'essaye d'éviter de percuter des animaux volants ou marchants. Mais je suis pas obligée à ça. Les éoliennes, ce sont des installations classées, soumises à un suivi environnemental. Elles ne peuvent pas déroger. Votre voiture, quand vous êtes venu, eh ben, je l'ai entendu arriver, fenêtre fermée à l'intérieur de ma maison. Je n'entends pas fenêtre fermée à l'intérieur de ma maison les éoliennes. Donc, d'une certaine façon, votre voiture fait plus de bruit que les éoliennes dans mon environnement à moi. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train d'essayer de minimiser l'impact des éoliennes. Je suis en train de dire que quand on regarde ce qui se passe et quand on prend la responsabilité de regarder ce qui se passe, on est tout à fait en mesure d'apporter des corrections au mode de fonctionnement de ces machines en sorte qu'elles aient le moins d'impact possible sur leur environnement.
Il en faut bien de l'énergie pour aller à pied ou pour partir avec les trains.
Et on a le bruit des oiseaux.
Ah oui, ben ça.
Le chant des oiseaux.
Le chant des oiseaux, c'est pas comme si c'était le printemps.
Inspiré.
Allez, on va rentrer dans la cuisine parce qu'en hiver, on chauffe pas toutes les pièces.
Respirer. Pour éclairer sa maison le soir.
On n'est plus au cœur de l'hiver, mais...
On pourrait aimer cette énergie captée, produite, diffusée, distribuée, renouvelée.
Est-ce que vous voulez un café ?
Avec grand plaisir.
La regarder tourner, la regarder se faire.
Donc on s'est retrouvé à un moment avec le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire en ayant déjà engagé des choses pour faire des études, mais sans plus aucune garantie de pouvoir financer la réalisation véritable de ce projet-là. À force de se retrouver empêché, soit par du tribunal administratif dû à des refus de permis de construire, soit par du tribunal administratif dû à des oppositions de riverains, on s'est retrouvé avec un projet qui avait 10 ans d'existence sans réalisation. Donc c'est bien de travailler pendant 10 ans sans retour. C'est compliqué de financer ce travail-là. Et au bout d'un moment, c'est devenu impossible. On n'avait plus la capacité de continuer à avancer sur un projet comme celui-là. Mais comme on avait déjà obtenu un permis de construire, la société, ben, ma foi, elle avait ce qu'on appelle des actifs. Et on a revendu cette société à un opérateur qui, à l'époque, s'appelait Quadrant et qui était très intéressant parce qu'il avait en son sein des gens qui étaient en capacité de parler avec les collectivités territoriales et peut-être, dans l'idéal, à terme, de les convaincre d'investir dans des projets de production d'électricité décentralisée. Comme ce que sont ces 5 éoliennes sur cette colline.
Gaëtan Roussel, éolienne.
Laissons les billes alizées au voilier. On peut petit drapeau de plage coloré. Mistral, chasseur de nuages, laissons-les souffler dans le ciel bleuté de l'été. Laissons les brises caresser les mollets de coques, les jolies gambettes faire forger des filles ou des girouettes au perché. Laissons les courants d'air frais circuler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé s'évader. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler.
Moi, j'en suis arrivée à l'idée que des projets comme ça, il fallait qu'ils soient aussi absorbés par les collectivités territoriales, ne serait-ce que partiellement. C'est-à-dire que les retombées économiques associées à ce type de projet-là puissent bénéficier au plus grand nombre. Sauf que vous ne pouvez pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Demande de permis de construire en 2002, refus de permis de construire en 2003, décision du tribunal administratif en 2007, obtention du permis de construire en 2009. Enfin, comment voulez-vous survivre à ça si vous n'êtes pas une structure avec un petit peu de capacité financière ? Ben, la suite, c'est que cette société-là, c'est revendu à Direct Energy, et Direct Energy, coté en bourse, a vu ses actifs rachetés par Total. Donc maintenant, la société qui exploite ces 5 machines, c'est Total Energy.
Inspirez.
Les travaux commencent pas tout de suite. Parce qu'il y avait encore des recours associés à ce projet. Et puis ben, ma foi, à un moment, Total a engagé les travaux et les recours se sont éteints.
Respirez.
C'est difficile d'avoir une crédibilité quand on est un amateur et de réussir à aller jusqu'au bout des choses en emmenant avec soi des gens qui ont une responsabilité collective forte. Donc moi j'en veux à personne, hein, mais j'ai longtemps eu le sentiment d'une dimension qui n'avait pas été atteinte.
Vous écoutez Il est une vallée, les éoliennes de Claire sur RDUA et Radio Saint-Ferréol, Biovallée.
Vous regrettez un peu tout de même si ces éoliennes aujourd'hui sont en état de marche et produisent de l'électricité comme vous l'aviez imaginé dans les années 90, ben, ce n'est pas resté finalement une action citoyenne et ça a été repris par une entreprise Total.
Ah ben, c'est sûr que quand on a été élevé avec pensée globale, agir local, on a une sorte de... Comment dire ça ? Pas de regret, pas d'amertume au sens strict du terme, mais l'impression qu'il y a une dimension qui manque. Bon. Ceci dit, qu'importe l'opérateur, pourvu qu'on ait le kilowattheure éolien, en fait. Peut-être que le territoire n'était pas mûr, peut-être que ce n'était pas encore le moment, et c'est aussi bien que ce soit un opérateur qui en avait la capacité, qui ait mené à bien ce projet-là. Les suivants seront différents. Sur la vallée de la Drôme, les suivants seront différents, c'est sûr.
Vous pensez qu'il pourrait y avoir d'autres projets éoliens qui pourraient s'installer dans la vallée de la Drôme ?
Ben, il faut. Il faut que tous collectivement, on évolue dans nos façons d'accueillir le changement.
Ceux qui s'opposent donc aux éoliennes, qu'est-ce qu'on pourrait, comment on peut comprendre ça finalement, parce qu'il faut bien en produire de l'électricité. Alors que
L'électricité qu'on consomme, culturellement, on ne voit pas d'où elle vient. On ne sait pas où sont extraits les minerais, on ne sait pas comment ils sont enrichis, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont transportés pour aller jusqu'aux centrales. On est inconscient de tout ça. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a le grand bonheur de pouvoir avoir toujours de l'électricité quand on appuie sur l'interrupteur. Voilà, il y a plein de gens qui ne veulent pas que quoi que ce soit change. On ne pourra pas se passer de renouvelables. Parce que quoi qu'on fasse, le développement des centrales nucléaires, il sera beaucoup plus long maintenant que ça a été le cas dans les années 70. Donc, quoi qu'on fasse en période intermédiaire, eh bien, notre mise, elle sera sauvée par de l'éolien et du photovoltaïque. Si on veut arrêter de consommer du gaz russe ou du charbon allemand. Donc, on va continuer comme on a commencé. L'important, c'est de réussir à trouver le moyen de développer les choses de la façon la plus harmonieuse et la plus cohérente avec les territoires. Il faut qu'on invente et qu'on accueille le fameux paysage après pétrole, parce que il faut qu'on limite notre production de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on électrifie de plus en plus nos usages, mais il faut aussi qu'on se chauffe mieux, qu'on isole les bâtiments, qu'on réfléchisse autrement notre façon de se transporter. Le monde doit changer. Et c'est mieux d'en être conscient et de l'accueillir plutôt que de le subir avec une crise dont on ne maîtrise pas la planification, en fait. Hein, il faut qu'on soit en capacité de choisir la façon dont on va avancer collectivement pour être plus indépendant, plus autonome, moins gourmand. Faut qu'on fasse des choix collectivement et des choix stratégiques qui nous permettent d'être plus autonome et plus respectueux de l'environnement. Ça veut rien dire, mais plus respectueux de nos pères, hein, qui n'ont pas non plus la possibilité de consommer autant d'énergie que ce que nous consommons de façon un peu obscène, peut-être, en termes de quantité. Donc, consommer moins et produire mieux. Et ce qu'il y a d'assez étonnant avec les oppositions à l'éolien, c'est qu'on réussit à avoir plus peur de l'éolien qu'on a peur de notre bon vieux nucléaire franco-français. C'est, pour moi, ça reste un mystère.
Tournez la page. Les énergies.
Comment vous parleriez de ces éoliennes maintenant qu'elles sont installées, qu'elles produisent de l'électricité, quel effet ça a sur vous ?
Oh, je suis super fière. Et puis, j'ai l'impression d'avoir fait mon devoir. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà, j'ai contribué, j'ai fait ma part. Voilà. C'est une fierté. Enfin, 5 machines, 30 millions de kilowattheures produits, raccordés au réseau à Cray. C'est l'équivalent des besoins d'électricité domestique de presque 25 000 personnes. Je suis fière. Hein. Enfin, je suis absolument désolée que de ne pas pouvoir partager cette fierté avec tout le monde. Mais j'ai pas l'impression, alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas l'impression d'avoir gâché la vie de qui que ce soit sur le territoire de la commune.
Tournez la page. Les énergies. C'était « Il est une vallée », les éoliennes de Claire. Pour Radio Sanfériol et Erdiwa, la radio du Diwa, une série produite et financée par l'association BioVallée. Merci à vous de nous avoir confié votre voix. Une réalisation Erdiwa, dit « Vallée de la Drôme, France, planète Terre, avril 2023 ».
Comme une ombre, comme un rêve.
Suite au prochain épisode.
L'homme qui vient de la terre y retourne à la fin. Il gagne bien péniblement son pain. C'est un vase qu'on brise. Une herbe qui sèche, c'est une fleur qui fane, comme une ombre, une brise. Il s'évapore vite comme un nuage. Le nord au milieu du voyage, il tombe comme le vent, s'élève comme la poussière, puis enfin disparaît comme une ombre. L'homme qui vient, il s'est donné du mal pour se donner du bien. Il s'est donné du mal. Il s'en est donné plein. Couché sur la surface haute du désir, d'un même regard saisissant le grain de sable de la dune et la lune, apparaissant dans le soir naissant. Couché sur la surface plane du désert, d'un même regard embrassant le grain de sable de la l'homme qui vient n'est au courant de rien.